Chers auditeurs et auditrices, nous continuons notre deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 30. Nous aurons quatre petites études. La première, nul ne chancela parmi ses tribus. Deuxièmement, ils reçurent chacun un denier. Troisièmement, puissance, délivrance et jugement. Quatrièmement, combat, fidélité et victoire. Donc, notre première étude, nul ne chancela parmi ses tribus. Le psalmiste parle dans ce verset de la sortie d'Égypte des enfants d'Israël. Dieu nous a fait comprendre qu'il n'y avait parmi eux aucune personne faible ni malade, soit homme, soit femme, soit enfant. Cependant, sous le rude esclavage de Pharaon, le peuple de Dieu avait dû être brisé moralement et physiquement. Certainement, il devait y avoir des malades et des faibles parmi ce peuple de 2 millions de personnes. Mais, à leur sortie du pays d'Égypte, pas une seule personne n'était malade. Dieu les avait guéris. Ils avaient été protégés de la mort par le sang de l'agneau pascal et rendus à la santé et à la vigueur par la chair de cet agneau qu'ils mangèrent à la hâte avant de partir, n'ayant pas même eu le temps de faire cuire leur pain. Dans l'obéissance à Dieu, ils trouvèrent non seulement la sûreté, mais la santé pour leur corps. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens sont arrivés à l'assurance de leur salut par le sang de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas compris que dans la mort de Jésus, il y a aussi la santé. Nous pouvons non seulement croire en Jésus pour être sauvés de la mort éternelle, mais nous approprier les vertus de sa vie pour être gardés de la maladie, fortifiés dans tout notre être, esprit, âme, ainsi que le corps. Qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu dire en affirmant que sa chair est véritablement une nourriture et que son sang est véritablement un breuvage, sinon que nous pouvons trouver en lui, oui en lui, si notre vie est sous son entière dépendance, nous pouvons trouver une source de force où nous pouvons puiser en nous appropriant par la foi la vertu de son sacrifice. Car son sang a été versé pour notre salut et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53 verset 5 et la première épître de Pierre chapitre 2 verset 24. Je répète juste cette phrase étant donné qu'elle va vous aider. Son sang a été versé pour notre salut. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5, et la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Chers auditeurs et auditrices, ce que je viens de dire maintenant, à ce moment, est une réalité pour vous tous qui venez d'entendre cela. Et c'est pour cela que je vous ai répété ce passage une deuxième fois pour vous permettre de faire une prière personnelle. Oui, l'apôtre Paul nous enseigne cette vérité quand il nous dit par le Saint-Esprit dans l'Épître aux Romains que si le Saint-Esprit habite en nous, il rendra la vie de nos corps. Donc, de nos corps mortels, il va nous rendre la vie. Romains chapitre 8, verset 11. Oui, en effet, voyez-vous, Dieu ordonna aux enfants d'Israël de manger l'agneau pascal, et cela avec les reins sains, les souliers aux pieds et leurs bâtons à la main, c'est-à-dire tout prêts à partir. Et nous aussi, les chrétiens, nous devons, tout en nous nourrissant de la vie de Jésus-Christ pour le maintien de notre vie spirituelle et physique ici-bas, être prêts à partir, à quitter le monde dont l'Égypte est le type pour entrer dans le pays de la promesse, la patrie céleste, d'où Jésus-Christ viendra lui-même pour nous chercher afin que nous soyons pour toujours avec lui. Ayons donc à nos reins la vérité pour ceinture, pour chaussure aux pieds, le zèle que donne l'évangile de paix, et nous appuyons sur le bras de l'Éternel qui est notre ferme appui, et nous serons prêts à partir sous l'aspersion du sang de Jésus, étant fortifiés dans tout notre être par sa vie, en attendant la transformation du corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens, chapitre 3, verset 21. Deuxième petite étude, ils ont reçu chacun un denier. Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 et 16. Certaines paroles de Jésus ont un sens spirituel difficile à saisir pour les personnes qui ne pensent qu'avec leur intelligence humaine. Car l'homme ordinaire, en effet, dira « Il n'est pas juste d'accorder un même salaire pour un travail inégal. Ceux qui ont travaillé toute la journée, ou 9 heures, ou ceux qui ont travaillé que 3 heures, ou même 1 heure seulement, doivent recevoir au prorata de la besoine accomplie. » Or Jésus-Christ nous révèle par cette parabole de Saint Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16, il nous révèle une loi spirituelle du royaume de Dieu. En effet, c'est une loi spirituelle du royaume de Dieu. Dieu est juste, infiniment juste, et par conséquent, il ne peut faire que ce qui est parfaitement juste. Les uns voient dans cette parabole des ouvriers dans la vigne, le don de la vie éternelle qui est accordé à tous, qu'ils soient à Dieu dès leur naissance, ou qu'ils le soient dès l'adolescence, ou encore à l'âge mûr, ou encore peut-être au moment de mourir. Sans doute, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, à quelque moment que ce fût dans leur vie, rappelez-vous le brigand sur la croix, héritent la vie éternelle. Mais notre parabole, elle parle d'un salaire. Or, un salaire n'est attribué qu'à celui qui l'a mérité par son travail, tandis que la vie éternelle est une grâce et un don. Personne ne peut gagner cette vie par une mérite quelconque ou par un mérite quelconque. Saint Paul écrit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 8, ou si vous voulez, le verset 5 et le verset 8, « Vous êtes sauvés par grâce, c'est-à-dire par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le dernier ne représente donc pas précisément la vie éternelle, puisque il est un salaire et non pas un don. Voyez-vous, d'autres croient volontiers que la parole signifie que l'on travaille beaucoup ou qu'on travaille peu, hein, et bien cela n'importe absolument pas. Nous recevrons tous un même salaire. Eh bien ça, ce n'est pas exact non plus. Que le chrétien se rende bien compte de cette vérité, le Seigneur nous jugera d'après l'œuvre que nous aurons accomplie pour lui, oui, et depuis notre conversion. C'est pas la même chose, quelqu'un qui va 4 fois en vacances au bord de la mer, dans un hamac entre 2 palmiers, peut-être à Hawaï, c'est pas tout à fait pareil. Donc voici ce que nous dit l'apôtre sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Ça vaut la peine de regarder cela de plus près. Notez 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. Hein? Bon, il est dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, eh bien l'œuvre de chacun sera manifestée. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Car il ne faut tous un jour comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou selon le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens chapitre 5 à 10, ou le chapitre 5 et le verset 10, ça suffira, selon la version allemande. Mais c'est la même chose dans vos versions, soyez sans crainte. Tel est donc le premier jugement de Christ. Le père de famille de la parabole demanda aux ouvriers qui étaient restés sans rien faire jusqu'à la 11e heure, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » Personne ne nous a rien demandé. Ils n'étaient donc pas responsables, eux, de leur inactivité, c'est clair, puisque personne ne leur avait donné quelque chose à faire. Mais dès qu'ils furent embauchés, même pour une heure seulement, hein, même pour une seule heure, ils accomplirent fidèlement et consciencieusement leur travail. Ce fut à cause de leur fidélité et de leur zèle. Avez-vous entendu? À cause de leur fidélité et de leur zèle, pendant cette heure-là, que le maître leur donna à eux aussi un plein salaire comme aux autres. Écoutez cet exemple. Voici 2 hommes. Ils sont nés le même jour. L'un est européen, l'autre est chinois. L'Européen reçoit une vocation missionnaire à l'âge de 20 ans et il part pour la Chine. Là-bas, il rencontre le Chinois qui est maintenant âgé de 50 ans. Celui-ci, en entendant la sainte parole de Dieu, il se convertit et il devient missionnaire à son tour. Ces 2 serviteurs de Dieu meurent. Ils meurent donc, disons, à l'âge de 65 ans. L'un a travaillé environ 45 ans pour le Seigneur. L'autre, il a travaillé seulement 15 ans. Mais exactement avec la même fidélité, le même zèle, et tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, croyez-vous qu'il serait juste que le missionnaire chinois reçoive moins que son frère européen? Ce n'est pas de sa faute, pas du tout, s'il n'a pas été appelé plus tôt. En outre, il ne s'agit pas de la qualité de travail, mais il s'agit de la qualité et de la durée de l'œuvre qu'ils ont accomplie pour le Seigneur. Mais si au contraire, après être devenu chrétien, ce Chinois se fut béatement, disons, satisfait dans son propre salut, sans même s'occuper de celui de son prochain, alors certes, son salaire aurait été tout autre, c'est clair. Ainsi, vous, chers chrétiens, si vous mettez avec zèle, amour et fidélité votre foi, vos connaissances de Christ, au service de vos frères et sœurs, quel que soit votre travail, vous aurez votre récompense. Je répète, ainsi vous, chers chrétiens, qui que vous soyez, si vous mettez avec zèle, avec amour et fidélité, votre foi, vos connaissances de Christ, au service de vos frères et sœurs, et cela, quel que soit votre travail, vous aurez votre récompense. Capitaux, avez-vous compris? Mais si vous négligez de faire ce que le Seigneur vous présente, soit dans votre famille, soit dans votre milieu de travail, soit dans vos églises même, vous perdrez votre récompense au tribunal de Christ. Lisez attentivement les Saintes Écritures et vous verrez que je ne vous mens pas. Jésus-Christ a dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage même de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Saint Luc, chapitre 12, verset 48. Il ne s'agit pas nécessairement de tout quitter pour devenir missionnaire ou pasteur, mais d'être fidèle dans le lieu où le maître de la moisson nous a placés et d'y travailler avec zèle et amour, portant du fruit qui demeure éternellement. Voyez-vous? Notre troisième petite étude concerne la puissance, la délivrance et le jugement. Vous pouvez noter Exode, chapitre 3. Je désire faire remarquer un principe divin qui s'est répété déjà à deux reprises dans l'histoire et qui se répétera, je crois, bientôt, plutôt qu'on pense, une troisième fois. Il s'agit de la manifestation de l'Esprit-Saint comme un feu, une grande puissance, la délivrance du peuple de Dieu et le jugement sur le monde impie. J'ai choisi ce chapitre 3 de l'Exode parce qu'on y trouve la manifestation du Saint-Esprit dans le buisson ardent lorsque Dieu s'est manifesté à son serviteur Moïse. Notez les versets 2 à 8 du chapitre 3 de l'Exode. Dieu avait donné à Moïse toutes les instructions en vue de la délivrance du peuple d'Israël. Il était vraiment l'envoyé de Dieu. Et il était aussi, souvenez-vous, le plus grand homme de l'ancienne alliance. Il va donc délivrer le peuple d'Israël, mais Pharaon ne l'entend pas de cette oreille-là, car ce peuple constitue des millions d'esclaves à son service quasiment gratuitement. Certainement, il va multiplier les obstacles, c'est clair. Et nous voyons de quelle manière les jugements de Dieu sont tombés sur l'Égypte à la suite des efforts faits par Pharaon pour empêcher Israël de quitter ce pays. 10 plaies, il y en avait 10, Dieu a délivré son peuple à la fin de la 10e plaie, et pas un enfant d'Israël ne resta dans le pays, pas un ongle lui appartenant, pas un Égyptien ne le quitta avec Israël, pas l'ombre d'une tête de bétail lui appartenant. Donc, Dieu a mis une barrière très nette entre son peuple et les Égyptiens. Ces derniers ont été jugés d'une façon terrible. Notez Exode chapitre 14, versets 19 et 20. La manifestation de l'Esprit Saint dans cette colonne de nuée, faisant une séparation entre Israël et les Égyptiens, et cette nuée éclairait les Israélites, mais elle était obscure du côté des Égyptiens. Donc, lumière pour les uns et ténèbres pour les autres. Puis est venu le moment où tous arrivèrent à la mer Rouge, et ce fut là que Dieu opéra une séparation totale. Notez Exode chapitre 14, versets 28 à 31. Dès ce jour-là, jamais plus les enfants d'Israël n'entrèrent en servitude dans le pays des Égyptiens, mais ils furent cependant asservis dans d'autres pays. Dieu les délivra définitivement de l'Égypte. Délivrance, mais en même temps, jugement, jusqu'à ce qu'il ne restât plus un seul Égyptien. Nous voyons une autre manifestation du Saint-Esprit, et cela dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. C'est une manifestation sous une forme visible. Quelques jours après, 3 000 croyants ont été ajoutés aux 120 disciples. Et puis bientôt, même après, ont été ajoutés 5 000 autres. Et c'est ainsi que jour après jour, le peuple de Dieu se forma, a pu se former. Souvenons-nous bien que du moment même où Dieu éloigna l'ancienne alliance pour s'établir avec nous dans la nouvelle alliance, il ne s'occupa plus des enfants d'Israël, mais il s'occupa maintenant de quoi ? De son Église que nous sommes, de toutes ces églises et assemblées de ceux qui étaient convertis et qui avaient reçu sa sainte parole. Donc tous les chrétiens étaient remplis du Saint-Esprit. Ils se faisaient des prodiges et des miracles. Il y avait des démonstrations d'esprit et de puissance. Maintenant, il s'agit également de l'application de ce principe, une manifestation de l'Esprit Saint suivie d'une délivrance du peuple de Dieu et d'un jugement. Pourquoi donc un jugement cette fois-ci? Souvenons-nous de la demande de Pilate. « Voulez-vous que je vous relâche votre roi ?» Et les Juifs lui ont répondu, « Nous n'avons d'autre roi que César. » Donc, ils ont demandé que Barabbas soit relâché et que Jésus soit livré à la place. Ils ont choisi donc de leur propre volonté d'être avec César et avec leur criminel Barabbas. Ils ont crié aussi en parlant de Jésus et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh bien, vous savez, ils en auront eu pour ce qu'ils ont dit, hein. Non pas pour justifier, mais pour juger. C'est pas pareil. Dieu a pris au mot ceux qui parlent de la sorte, car ils ont choisi Barabbas. Ils ont maintenant Barabbas aujourd'hui. Ils ont choisi César, et ils ont César aujourd'hui, bientôt sous la forme de l'Antéchrist. Ils ont demandé un jugement, et cela dans les années 33, et en l'année 70, le jugement est arrivé. Mais Jésus-Christ n'a pas laissé ses enfants dans l'ignorance de ce qui devait arriver, pas du tout. Dieu a averti les chrétiens et ces derniers ont prévenu les autres. Il n'y a pas eu de jugement sur les chrétiens, mais une délivrance merveilleuse. Souvenons-nous du conseil que Jésus-Christ a donné. Il a dit dans Saint Matthieu, chapitre 24, versets 16 et 18, que ceux qui seront en Judée fuient, qu'ils partent dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende surtout pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Ils ont donc fait allusion, ou plutôt il a fait allusion là, aux armées romaines. Et comment ? Ces armées romaines qui devaient envahir la Palestine avec quelques millions, oui, des millions de soldats. Ainsi, les chrétiens avaient déjà reçu cet avertissement-là, et cela de la part du Seigneur quand ces choses arrivèrent. Et la lecture du chapitre 8 des Actes des Apôtres montre clairement comment Jésus-Christ avait préparé leur délivrance. Voici donc une église qui était remplie de feu et de vie. C'était une église qui avait tout pour elle. Dieu était là, au milieu de son peuple, et ce dernier était comme dans un petit nid, bien garni et bien chaud, loin de toute tentation. Mais qu'arriva-t-il ? Il arriva une persécution si grave que tous furent chassés de Jérusalem et tous furent dispersés. Il ne resta que les 12 apôtres. Et puis quand les armées romaines ont envahi la ville, il ne resta plus un seul chrétien. Et c'est alors que les chrétiens se sont souvenus de l'avertissement du Seigneur, quand il a dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Les armées romaines ont mis Jérusalem à feu et à sang. Plusieurs centaines de Juifs ont été même crucifiés comme ils avaient crucifié le Seigneur Jésus. Il n'y avait alors plus un seul chrétien dans la ville. Dieu les avait délivrés, pardon, Dieu les avait délivrés par la persécution. Ils pouvaient donc rechercher la cause de cette persécution. Dieu l'avait permise, pourquoi ? Afin de les disperser et en vue ainsi de les sauver et de les protéger. Si le Seigneur met son petit bâton dans votre nid pour le déranger un peu, ne vous inquiétez pas outre mesure. Dieu veut simplement vous sauver. Chers amis, où sommes-nous en ce qui concerne les temps actuels. Nous pensons que les paroles écrites dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 21, nous pensons qu'ils se réalisent. La prophétie, elle dit, dans les derniers jours, dans les derniers jours. Eh bien oui, nous assistons à la réalisation de cette parole. Des millions de personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit à l'heure actuelle. Dieu répand son esprit sur toute chair. Et dans chaque nation, dans chaque pays, même dans ceux où règne la persécution, où la foi doit être tellement cachée par crainte de la mort, il y a une effusion de l'Esprit Saint. Nous vivons dans les temps où cette promesse se réalise. Et comment ? Je puis l'affirmer sans crainte d'être contredit. Car maintenant, puisque le Saint-Esprit est répandu sur toute la face de la terre, il nous faut attendre la délivrance des enfants de Dieu et le jugement du monde impie. J'ai la ferme conviction dans mon cœur que ces deux choses sont plus proches qu'on le pense. Aujourd'hui, Dieu sépare un peuple pour le sauver avant que son jugement ne tombe sur un monde impie. Il ne faut pas croire que ce jugement va se produire immédiatement. Il faut d'abord que les gens récoltent ce qu'ils ont semé. Puis ensuite aura lieu le jugement de Dieu qui tombera sur le monde perverti. Ils ont montré il y a que quelques jours que il y aura toujours des bénévoles pour servir Satan. Il y a Google et d'autres semblables à Google qui partent volontairement, bien sûr, on le leur a demandé, avec des appareils sophistiqués, dans des endroits où les voitures, les 4x4 et puis les drones ne peuvent pas y aller. Et là, ils vont à pied, à travers des épines, des rochers et des endroits où normalement on ne peut pas passer, pour pouvoir recenser et pouvoir donc savoir exactement par ces appareils, pour pouvoir savoir où sont telle et telle ethnie de semi ou de sauvage, ou des gens qui se sont simplement éloignés des villes pour se cacher, etc. Donc, ces bénévoles vont avec des appareils sophistiqués dans des endroits, je répète, où aucun 4x4 peut passer. Et là, eh bien, il y aura, donc tout sera noté, tout sera photographié, et comme ils le font actuellement dans les villes du monde entier. Donc même dans les endroits les plus reculés du monde, voyez-vous ? Alors, je répète, j'ai la ferme conviction dans mon cœur que ces choses sont plus proches que l'on pense, elles sont même à la porte. Aujourd'hui, Dieu sépare un peuple pour le sauver, avant que son jugement ne tombe sur un monde impie. Il ne faut donc pas croire que ce jugement va se produire peut-être demain matin, non. Mais il faut d'abord que les gens récoltent ce qu'ils ont semé. Il y aura des bestioles, des tiques, des choses incroyables, toutes sortes de fléaux qui attaqueront l'être humain à tel point qu'ils ont déjà montré des images qu'on ne peut pas les guérir par les moyens sophistiquée que nous avons. Puis ensuite aura lieu le jugement de Dieu qui tombera sur le monde perverti, Sodome et Gomorre, qui maintenant se multiplie rapidement, oh là là, dans toutes les villes du monde. Hein, il y a la gay pride, ils sont tellement fiers de commettre les choses qui ont été proscrites par le Saint des Saints, qui ont été défendues, ils sont fiers de les accomplir pour le narquer ou le narguer. Parlons d'abord de la délivrance du peuple de Dieu, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la fin, à la voix d'un archange, va descendre du ciel, et là, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, il existe des images colorées magnifiquement, on dirait faites par archange, tellement que c'est beau, n'est-ce pas? Eh bien, où on voit l'enlèvement d'une façon merveilleuse. Vous pouvez certainement, dans certaines librairies chrétiennes, obtenir même sous forme de carte postale. Ce sera donc la délivrance des enfants de Dieu, ce sera l'enlèvement de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Soyons donc prêts et souvenons-nous de ce qui est écrit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». Et voyons maintenant ce qui arrivera aux autres. Il s'agit du jugement sur le monde impie. Il est dit dans Révélation, dans Die Offenbarung, c'est-à-dire en français Apocalypse, chapitre 16, versets 1 et 2, il est dit ceci. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, sieben anges, « Allez, versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Die Offenbarung, chapitre 16, versets 1 et 2. Un ulcère malin, semblable à un cancer, va ronger ceux qui auront accepté la marque de la bête, le 666, le règne de l'Antéchrist. Google et compagnie préparent tout cela. Selon les versets 10 et 11, deux de ces sept coupes amèneront le jugement de Dieu sur les impies. Grâce à la parole de Dieu, il vous appartient de décider vous-même de l'endroit où vous vous trouverez lors de cette délivrance, lors de ce jugement. Si vous êtes véritablement né de nouveau lorsque Dieu fera cette séparation d'avec les injustes, vous n'aurez absolument rien à craindre. Consolez-vous. Mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, alors tremblez, car le jugement de Dieu vous atteindra. Vous avez aujourd'hui la possibilité, mes chers amis, de choisir entre le peuple de Dieu ou le monde. Vous n'avez qu'une seule chose à dire, Seigneur, que ton sang soit sur moi pour me sauver, pour me sanctifier et pour me purifier quand le jugement terrible viendra sur le monde. Que je sois avec toi. Alors, de quel côté êtes-vous, chers auditeurs et auditrices? Êtes-vous un ami de Dieu ou un ami du monde? Si vous êtes un ami de Dieu, vous partirez avec lui quand Jésus-Christ reviendra. Si vous êtes amis du monde, vous resterez avec le monde que vous avez tellement aimé et servi. Hein, c'est clair. Nous arrivons à la quatrième petite étude qui nous parle de combat, de fidélité et de victoire. Il est dit dans Josué chapitre 1, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage ». Cette exhortation se trouve donc répétée 4 fois dans le premier chapitre de Josué. Notez les versets 6, 8, 9 et 18. La direction du peuple d'Israël a été confiée par Dieu à Josué après la mort de Moïse. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Josué chapitre 1, verset 2. C'était Josué qui devait conduire le peuple à la conquête de la Palestine. Ce pays était alors habité par 7 nations dont chacune était à elle seule plus puissante que Israël. On y comptait 31 rois qu'il fallait vaincre pour arriver à posséder la terre promise. Ça, c'était une lourde tâche et l'action promettait d'être chaude. Mais Josué avait l'assurance de la victoire. Dieu la lui avait promise. Voici en quels termes elle avait été faite. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué chapitre 1 verset 3. C'est ce qu'avait dit l'Éternel. Josué savait très très bien qu'il lui serait impossible de revenir en arrière une fois passé le Jourdain. Toute retraite avait été impossible. Il lui fallait donc toujours aller de l'avant et encore de l'avant. Le premier problème consistait donc à passer le Jourdain. Il y avait pour cela une promesse divine. Josué savait que dès que son pied aurait foulé le moindre endroit de ce pays, cette parcelle deviendrait la propriété du peuple d'Israël. Sans doute Dieu lui donnait cette terre de la Palestine, mais de son côté, il devait agir et avancer. On peut facilement établir une comparaison avec la vie chrétienne actuelle. Le pays de Canaan était le pays de la promesse. Or, nous avons des milliers de promesses, et oui, dans la Sainte Parole de Dieu. Nous en connaissons quelques-unes, mais paraît-il, il n'y en a pas moins de 3000 promesses dans les Saintes Écritures. Il s'agit pour nous, chrétiens, de mettre la main sur la promesse qui nous concerne et de tenir ferme dans la foi. Il y a pour nous promesse de salut, promesse de guérison, promesse de baptême de l'esprit, des dons spirituels, de la vie chrétienne victorieuse, et cela pour la vie de chaque jour. Il y a aussi des promesses pour les grandes et les petites choses de la vie quotidienne. Si tant de chrétiens ne sont pas victorieux, c'est qu'ils ne posent pas fermement la main sur les promesses divines. Quand par un acte de foi, on s'approprie une promesse, Dieu l'accomplit fidèlement. En effet, dans Josué chapitre 1, verset 5, il est dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi donc et prends courage. » Il y avait alors 7 puissantes nations à vaincre, c'est pas peu de choses. Elles s'adonnaient à des péchés nombreux, comme aujourd'hui exactement, et des péchés affreux, et spécialement au spiritisme, à la chiromancie et à l'astrologie, et il faisait tout ce qui était contraire à la sainte parole de Dieu sur le plan sexuel. Voici donc dans quel triste état se trouvaient les ennemis que Israël devait vaincre, hein, que Israël devait envahir. Mais en comptant sur les promesses de Dieu, Josué n'avait que à aller de l'avant et encore de l'avant, car Dieu était avec lui. Ce qui est remarquable, c'est que l'Éternel a combattu avec eux pour assurer l'accomplissement de sa promesse. Il fallait tout d'abord remporter la victoire et Dieu a permis à Josué d'arrêter le soleil. Hein? Entendez-vous ça? Vous pouvez vérifier. Il a été permis à Josué d'arrêter le soleil pendant 24 heures. Il a fait tomber une abondante grêle sur les hordes ennemies à tel point, hein, de les contrarier pour contrarier tous leurs mouvements et de leurs troupes. Et Dieu a combattu pour Israël, et cela à différentes reprises. Il avait dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et en effet, il faisait de grands miracles, il y avait des grands miracles presque chaque jour. Il avait ajouté, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Josué devait donc compter sur la présence de Dieu. Certes, il ne voyait pas Dieu de ses propres yeux, mais il devait s'appuyer sur ses promesses et rechercher sa présence. Parfois, certains chrétiens ont été surpris parce que les grâces du Seigneur ne se continuent pas. Quoique, ils aient fait l'expérience de quelques manifestations de l'Esprit. Ah, c'est ce qu'ils disent. Je crois bien que Dieu m'a peut-être abandonné. Alors moi, je leur dis, ça c'est impossible. Puisque il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. C'est clair? Le chrétien doit toujours compter sur la présence de Dieu. Ses promesses sont formelles et certaines. Il ne peut nous délaisser puisqu'il a promis le contraire. Seulement, bien sûr, il est de toute nécessité pour nous de réaliser sa présence. Parlons-lui partout où nous nous trouvons, sur le chemin, au travail ou ailleurs, comme s'il était réellement présent, comptant sur sa présence, tout simplement. Il est dit dans Josué chapitre 1, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu ne peut rien faire avec une âme morose, découragée et dépressive et pleurnicheuse. Voyez les exemples donnés dans la sainte parole de Dieu. Lorsque un homme de Dieu ou une femme de Dieu se décourage, Dieu, eh bien, peut le retirer de son ministère et lui enlever sa charge. Je pense maintenant à notre ami Élie, le merveilleux Élie, qui était extraordinaire, qui a remporté une victoire magnifique sur 400 prophètes de Baal, et c'était pas n'importe qui, et 450 autres divinités païennes. Et lorsqu'on a voulu lui dire, oh, fais attention, car il y a cette fameuse Jézabel, elle a fait le serment de te liquider, de te nettoyer, comme on dit aujourd'hui. Ça veut dire de te tuer. Eh bien, figurez-vous, ce grand Élie, et nous aurions peut-être fait pareil, hein, il s'est enfui au désert et a même demandé la mort. Alors Dieu fut assez attristé, on le comprend. Certes, la vie du 21e siècle dans lequel nous sommes, le siècle le plus dangereux de l'humanité, n'est pas faite pour nous encourager beaucoup, hein? Est-ce que vous trouvez qu'on a eu un été merveilleux, un printemps magnifique, que les cerises ont pu mûrir, que les fraises également, hein? Si on les faisait pas venir de centaines de milliers de kilomètres, on n'en aurait même pas. C'est donc une lutte continue. Et en Amérique, il y a des régions où il y a une sécheresse telle que la terre est devenue comme du béton, et il y a des bestioles dangereuses. Si elles peuvent se mettre sur un être humain, c'est tout petit, hein, minuscule. Eh bien, il n'y a rien, absolument aucun remède contre, et ils ont montré à la télévision que c'est épouvantable, les souffrances et la dégradation de tout le corps. Lentement et sûrement, croyez-moi, c'est la pire des morts qu'on peut imaginer, et il y en aura encore d'autres. C'est une lutte continue, semaine après semaine. Beaucoup passent par de nombreux soucis et des difficultés terribles, chômage et tout ce que j'en passe. On entend souvent des gens dire, quand nous nous endormons le soir, nous appréhendons le réveil, car nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Vous savez, il y en a qui doivent être expulsés de leur appartement ou maison, parce qu'ils peuvent plus payer, ils sont à la rue. Nous pensons à la somme de souffrance qui peut nous échoir dans l'avenir. D'une façon générale, on redoute l'avenir parce qu'on est découragé. Or, le découragement est un péché puisque Dieu a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Comment pouvons-nous nous fortifier, je vous le demande. Premièrement, cultivons la présence de Dieu dans notre vie. Ne comptons plus sur nos propres efforts. Oh, ils ne servent pas à grand-chose. Mais sur sa présence invisible. Nous ne devons plus agir, mais nous devons laisser Dieu agir à notre place. Ce que jusqu'à maintenant, nous n'avons peut-être pas réussi à faire, moi non plus. Nous sommes aussi appelés à nous fortifier dans la prière. En vivant dans la prière, non seulement notre âme sera fortifiée, mais aussi notre corps. L'âme sera vivifiée, nous aurons la certitude de la présence de Dieu par l'exaucement de nos prières. Les enfants de Dieu qui voient leurs prières exaucées sont toujours plus forts que les autres. Si j'osais employer une comparaison, je dirais que pour être fort, un homme doit bien se nourrir, c'est clair. Si l'on veut être fort, il faut être soutenu par une nourriture adéquate. Bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile puis c'est très cher, mais essayons quand même. Il en est de même dans la vie chrétienne. Il faut bien se nourrir de la sainte parole de Dieu. Le chrétien qui étudie la sainte parole sera puissamment fortifié car elle est vivante. David se fortifiait dans la pensée que Dieu lui avait promis la couronne d'Israël. Fort de cela, il a combattu. Il a subi même quelques défaites, d'accord, mais il ne se découragea jamais. Nous sommes donc appelés à prendre courage, vous et moi, à nous armer contre l'adversité, à réaliser la présence de Dieu et aller de l'avant. Il ne peut y avoir de retraite dans la vie chrétienne. Comme Josué, il nous faut couper les ponts avec le passé. Nous avons traversé le Jourdain. Il est impossible de reculer maintenant. Ainsi en est-il parmi ceux qui ont passé dans les eaux du baptême. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Josué chapitre 1 verset 7. Donc continuons toujours droit devant nous. Les chrétiens n'agissent pas comme les rivières qui ne connaissent que la loi de la moindre résistance. Elles prennent toujours le chemin le plus facile pour arriver vers la mer. Une toute petite éminence de terrain, hein, un petit obstacle, un petit rocher se présente-t-il, eh bien la rivière va la contourner. Et le chrétien, lui, va droit au but. Et il est appelé à surmonter même les difficultés de la route. Chers amis, avant de terminer par la prière, Dieu veut des chrétiens qui suivent la ligne droite sans s'en détourner. Croyez-vous que, à mon grand âge, avec quand même des problèmes assez aigus, je ne veux pas trop vous en parler, parce que vous direz, ben, le Seigneur a dit qu'il te guérirait. Bien sûr, mais il n'a pas dit que quand on arrive à un grand âge, que le corps ne se déglingue pas un peu, hein, que vous pouvez avoir un canal lombaire coincé qui fait drôlement mal, ou que vous pouvez avoir des problèmes au cœur qui ne font pas toujours rigoler, mais malgré cela, eh bien, il m'aide et j'irai jusqu'à ce qu'il m'appelle. Pour le moment, il me dit « va ». Et même quand je me sens pas trop bien, va quand même, voyez-vous. Alors, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi est-il écrit ? Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 7. Je vous demande, combien d'entre vous médite véritablement la sainte parole de Dieu? Je crains, moi, que ce ne soit pas la majorité qui par exemple se lève la nuit ou le jour et qu'ils élèvent et que vous élevez votre âme vers le Seigneur. Bon, j'ai aucun mérite puisque j'arrive parfois pas à dormir, mais j'ai dit, j'ai pas de mérite, hein. Mais j'utilise ce temps au milieu de la nuit pour prier et pour demander au Seigneur que le Saint-Esprit me guide, m'inspire et qu'il prenne ma bouche, mon être tout entier, pour faire chaque matin ce que je viens de faire maintenant, hein. C'est pas tout facile, ça me tombe pas dans la bouche tout cuit. Presque chaque matin, un CD, à mon grand âge. Mais je pourrais jamais le faire par moi-même. Jamais, 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 je vous l'avoue. Jamais. Alors, vous savez, il est impossible d'être fort et vaillant sans lire et méditer la sainte parole de Dieu, sans la méditer et sans la mettre en pratique. La Bible dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends, Josué chapitre 1, verset 8, on voit partout rôder le spectre de la faillite aujourd'hui, hein, une boutique après l'autre ferme, un restaurant après l'autre ferme et un autre s'ouvre parce que chacun croit qu'il est plus malin que l'autre. Pour quelle raison tout cela? Parce qu'on n'est pas suffisamment attaché à la sainte parole de Dieu. La promesse que Dieu a faite, qu'il a fait à Josué, il y a de cela des siècles, eh bien, croyez-moi ou pas, elle est exactement la même promesse pour nous, pour toi, aujourd'hui. Mais direz-vous, si je déclare tous mes revenus, comment pourrais-je arriver à la fin de l'année? Hein? Eh bien, déclarez-les quand même et laissez Dieu agir. Un jour, une candidate au baptême est venue pour trouver son pasteur et lui confier ceci. Je loue une chambre tel prix, le prix fort, surtout dans des villes où il y a une pénurie terrible de logements. Mais je ne déclare pas, oh non, parce que la régie me défendrait. Eh bien, le pasteur lui a dit, « Madame, est-ce que Dieu vous a conseillé d'agir ainsi ?» Voyez-vous, la parole de Dieu dit, « Afin de réussir dans tout ce que tu entreprends, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraye point et ne t'épouvante surtout pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué chapitre 1 verset 8. Or, la crainte et la peur, ça m'arrive aussi. Hein? Il faut être un peu humble, puis pas crâner, être orgueilleux quand c'est pas vrai. La crainte et la peur sont l'opposé du courage, c'est clair. Le chrétien n'a jamais raison d'être effrayé, il ne devrait pas. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Le cas d'Élisée en est une vivante démonstration. Le roi de Syrie avait envoyé une armée entière pour le faire prisonnier. Et de grand matin, on est venu lui annoncer que la ville était assiégée. Élisée sortit, regarda vers la montagne et il a vu les collines environnantes remplies des armées de l'Éternel. Et il a dit alors avec une grande assurance, « Eh bien, figurez-vous que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Et c'est ainsi qu'il a repris courage. Josué a compris, il donna des ordres, et dans 3 jours, vous passerez le Jourdain, a-t-il dit. En quelques années, il a conquis tout le pays. Oui, er hat das ganze Land erobert, tout. Et les 31 rois ont été battus. Et les 7 nations ont été vaincues. Puis, sur la fin de sa vie, Josué a regardé en arrière et il pouvait dire « J'ai tout fait ce que l'Éternel m'a ordonné de faire. » Toutes les paroles de Dieu ont eu l'accomplissement total. Donc, chers amis, si nous faisons comme Josué, essayons, nous recevrons les mêmes bénédictions. Pourquoi pas essayer? Dans Josué chapitre 1 verset 16, nous voyons les Rubénites, les Gathites et la demi-tribu de Manassé. Ils ont répondu à Josué en ces termes. Écoutez bien. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, ont-ils dit. Hein? Dans Josué chapitre 1 verset 16. Nous ferons tout ce que tu nous as commandé, ordonné. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni à mort. Fortifie-toi et prends donc courage. Chers amis, nous ne savons pas ce que cette année nous réserve, et surtout l'année prochaine. Peut-être comptera-t-elle dans l'histoire du monde. Si Dieu est en nous, nous pouvons nous fortifier et prendre courage en allant de l'avant. Nous serons plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés le premier. Et il nous aime toujours, pour autant que nous restons fidèles. Chers amis, avant de terminer par une courte prière, il peut arriver que le Seigneur me donne une petite parole pour vous transmettre. Voici quelque chose qui peut aider certains d'entre vous qui écoutez ce CD. Vous êtes transformé à son image. Dans la mesure où vous croissez à la ressemblance de Jésus-Christ, son amour vous imprègne de divine grandeur. Pensée sublime, direz-vous, mais en doutant qu'elle corresponde à ce qui est réalisable. Sachez que Dieu est amour, et si Dieu est amour, il est aussi souverain, grandeur, il est une souveraine grandeur. Car petit à petit, par conséquent, il met quelque chose de la dignité et de la grandeur de Dieu dans la vie de tous ceux qui le suivent. Au demeurant, ne l'avez-vous pas remarqué déjà chez ses amis les plus intimes? Donc, allez jusqu'au bout. Dieu est aujourd'hui encore ce qu'il était au jour de Moïse. Le Dieu qui répond à la prière de la foi, il est le même. Il est toujours là, prêt à secourir, à faire surgir un chemin pour traverser à sec la mer Rouge. Ayez donc la foi de Moïse, qui jamais ne douta de Dieu, même arrivé à la mer. Il était poursuivi par une armée et sans issue possible. Apparemment, du moins, il conduisit son peuple jusqu'au bord même de la mer. Il avait fait tout ce qu'il pouvait faire. À Dieu maintenant, à son Dieu, objet d'une foi inconditionnelle, d'intervenir. Il comptait sur cette intervention. Il l'attendait. Mais il avait dû aller jusqu'au bout. Si souvent l'homme recule ou s'arrête à la pensée de la mer hostile, qui n'est pas très loin, il est inutile de continuer, dit-il, et il abandonne tout simplement. Ou alors il va jusqu'à ce qu'il arrive en vue de la mer, et là, il s'arrête. Il faut absolument qu'il persévère, que tu persévères, qu'il aille jusqu'au bout. Il lui faut faire toute sa part, en avant donc, jusqu'à la mer. Que cela vous soit une leçon capitale. Faites tout ce que vous avez à faire, et puis comptez sur Dieu pour votre salut. Dire que c'est inutile, c'est refuser d'aller jusqu'au bout, et cela équivaut à passer à côté du salut de Dieu. Les eaux se sépareront et vous traverserez la mer à sec. Il l'a promis, souviens-toi, lui, le Seigneur, il l'a promis. Tant de ceux que vous connaissez en ont d'ailleurs fait l'expérience, et vous donc, toi, mon cher ami, également, réfléchissez bien à tout cela, car Dieu vous aime. Gloire à Dieu. Nous allons donc prier ensemble. Et nous dirons, cette prière, elle est valable pour tout un chacun d'entre vous. Vous pouvez donc la réécouter et la prier selon ce que vous recevez dans votre cœur. Ô mort, ne me précipite pas dans ton champ avant que je sois devenu un bon grain de blé. Ô Dieu, ne me laisse pas paraître devant ta face avant que j'ai eu le temps de te servir, non pas seulement par devoir, mais par un réel amour, amour pour toi et pour les âmes qui se perdent. Du moment à l'autre, je suis emporté par mille souffles. Tantôt je suis dans les hauteurs, tantôt dans les profondeurs de l'abîme. Tantôt, je suis maître de mon âme, tantôt esclave de mon corps, son compagnon, tantôt, je suis un roi portant le diadème, tantôt, un malheureux mendiant. Je passe mille fois d'un état à un autre, comme une roue qui tourne. L'ivraie, elle se mêle à mon blé, ainsi que la paille, et ton bon grain est perdu au milieu des épines, dans le champ de ton serviteur. Ô Seigneur, à personne sinon à toi, je ne raconte ma misère, mais mon désir ne vise que toi et ta grande miséricorde. Oh oui, toi, de qui dépendent tous les vivants et les morts tous ensemble. Ne permets pas que je meure dans mes péchés, jamais. Seigneur, transforme d'abord mes épis en pain, alors le moissonneur pourra s'approcher de moi sans me faire aucun mal. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, Dieu voulant donc, à demain matin pour la suite de cette série et qui continue encore un bon moment. Après, il y aura d'autres sujets. Que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir. À demain matin.